Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 octobre et je suis ravie de vous retrouver pour une demi-heure autour de l'actualité mayonnaise. On va parler aujourd'hui, on va se glisser dans l'entreprise au sein de l'atelier des Mouettes à Laval, un atelier de confection éthique, vous le verrez. On va aussi parler du festival J2K qui a commencé en début de semaine et qui se poursuit jusqu'à la semaine prochaine autour de la culture hip-hop et de l'éducation de manière plus générale. On en parle avec son coordinateur Baba Diawara. Et puis on va se poursuivre, on va retrouver notre chronique de comme tous les jeudis autour du Penser Local, chronique reportage d'ailleurs, réalisée en partenariat avec les radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Ça, ce sera plutôt en fin d'émission. Mais d'abord, on fait un petit point sur l'actualité. Avec 1500 clients privés d'électricité ce matin, on le sait à cause de la tempête Aurore qui a fait beaucoup de dégâts, surtout matériels, hein, hier soir et plutôt dans la soirée. Les pompiers de la Mayenne ont compté 5 interventions et 36 demandes redirigées, que ce soit vers EDF ou bien vers les mairies. Pas de blessés ni d'accidents de la route, mais des voies coupées. Ça a été le cas notamment sur la Nationale 162 entre Château-Gontier et Villiers-Charlemagne à différents endroits hier soir. Et puis il y a un arbre qui s'est aussi abattu sur la piscine Saint-Nicolas à Laval. Heureusement, pas de gros dégâts. Et la circulation a été rapidement rétablie dans la nuit sur les axes concernés. L'électricité devrait revenir chez les foyers concernés au cours de la journée. Une jeune maman a été retrouvée morte dans un étang de la Baconnière, découverte macabre par des promeneurs vendredi dernier. Le corps de la jeune femme, âgée d'une trentaine d'années, flottait dans l'eau. Son fils de 9 ans était présent au moment du drame, mais il est toujours vivant. Une enquête est ouverte pour comprendre ce qui a pu se passer. La piste du suicide est privilégiée. Les sages-femmes continuent leur grève demain à Laval. Elles étaient à Paris le 7 octobre dernier et porteront les mêmes revendications demain devant le centre hospitalier entre midi et 15h. L'obtention d'un ratio une femme, une sage-femme, la revalorisation de 750 euros mensuels, mais aussi le remplacement de tous les arrêts de travail, l'attribution de la prime Buzyn ou encore la titularisation des contractuels. Aménager des jeux pour enfants, planter des arbres fruitiers ou créer des circuits pédestres, autant de projets qui font partie des lauréats du premier budget participatif de la ville de Laval. 19 au total ont recueilli les votes des habitants répartis géographiquement dans la ville. Par exemple, on retrouve la réhabilitation du kiosque du pavement, la création d'un espace de jeu d'eau en extérieur ou un abri semi-couvert pour les vélos à l'école du Petit Prince. Et puis je vous en parlais en tout début de cette émission, une cinquantaine d'entreprises ouvrent leurs portes à l'occasion d'Industriel Attitude, une cinquantaine d'entreprises de Laval Agglomération. On en trouve des gros groupes hein, comme Lactalis ou Réauté qui ont l'habitude d'ouvrir leurs portes, mais aussi de plus petites entreprises et parfois qui sont nées il n'y a pas très longtemps. C'est le cas de l'Atelier des Mouettes à Laval, Atelier des Mouettes, atelier de confection qui est né il y a un petit peu plus d'un an et demi. Et qui donc ouvre ses portes comme les autres entreprises pour Industriel Attitude, aussi bien aux demandeurs d'emploi lors de la première semaine, aux scolaires cette semaine et même au grand public la semaine prochaine. Et donc pour vous donner envie en tout cas, on a fait cette visite en avant-première avec Astrid, la responsable de l'atelier des Mouettes, et Marine, mécanicienne en confection depuis septembre 2020. C'est parti.
Nous, les Mouettes Vertes, ça fait un an et demi qu'on existe. On a ouvert pendant le confinement, donc avec la fabrication de masques. Et là, maintenant, on s'est reconverti donc, dans plusieurs secteurs. Donc là, on a des vestes et des tabliers de travail pour les magasins alimentaires, principalement des magasins bio. Ensuite, on va avoir tout ce qui va concerner la beauté et l'enfance. Là, on va avoir des lingettes, donc des lingettes démaquillantes et des lingettes bébés. Ça, c'est fabriqué à l'atelier. Donc là, Marine, vous en faites à peu près 600, c'est ça, par jour, les lingettes? À côté, on a pas mal de trousses avec des modèles différents. On va avoir des trousses avec un fond, sans fond, doublé, non doublé. On va avoir plusieurs types de pochettes et de trousses où on s'adapte à la demande. Nous, on va principalement faire du B2B, on ne vend pas au nom des Mouettes Vertes. On travaille avec un atelier en Inde, un atelier GOTS. Nous, on est le premier atelier français validé GOTS. GOTS, c'est une certification qui assure une certaine traçabilité des produits et chaque maillon de la chaîne va être rémunéré à sa juste valeur. En ce moment, on a une grosse période pour les culottes menstruelles. Donc là, en ce moment, c'est vraiment le gros de l'activité, ça va être des culottes menstruelles à flux normal et flux abondant. En fait, pour chaque projet, à chaque fois, il y a une référente. L'objectif de la référente, ça va être de résoudre les problèmes de premier niveau, maintenance de premier niveau. Il y a
une aiguille qui est tombée,
un fil à réenfiler. Si la mécanicienne a du mal à le faire, à s'en occuper, Sandrine, elle va lui montrer, elle va lui expliquer comment faire pour qu'après, elle puisse être autonome. La référente, celle aussi qui va suivre les encours de production. Là, par exemple, il y a plusieurs tailles, donc celle qui va recompter, qui va vérifier les rebuts, m'alerter en cas de problème, commenter les problèmes qualité. Donc, c'est assez intéressant parce que ça leur permet d'être en production et puis de remonter pas mal de points. Ok, donc là, ici, on a la table des protos. Donc là, on a Julie qui est notre première d'atelier. Donc là, on voit pas mal de protos. Ça va être, là, par exemple, ça va être des sacs. Vu qu'on travaille en B2B, on a beaucoup de demandes. On est souvent en train de faire, je sais pas combien par semaine on est exactement, mais là, par exemple, elle a 10 protos à faire dans la semaine. Donc, alors, les deux machines que vous voyez là, c'est des recouvreuses.
Ça va venir raser le tissu et poser l'élastique. En fait, pour que ça fasse un beau bord tout propre.
En fait, elle fonctionne en ligne. On va mettre différents types de machines au fur et à mesure pour que la culotte suive l'étape au fur et à mesure. Pour éviter le plus possible d'avoir à se lever et que ce soit la pièce qui bouge et pas la personne. Les filles, elles sont polyvalentes. Elles sont formées à 3 postes. L'objectif, c'est de monter en compétence sur ces 3 postes. Quand elles ont la cadence et qu'elles ont bien le pli, voilà, c'est intéressant déjà de les laisser dessus pour nous pouvoir monter en termes de temps. Et puis derrière, après, on les forme aussi sur d'autres produits.
Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand j'ai fait la première étape, je ne me rendais pas forcément compte des défauts. Et après, en étant sur les cuisses, je me suis rendu compte de tout ce qui n'allait pas, en fait. Et ça nous a permis de se rendre compte des défauts et de faire beaucoup plus attention qu'on était à la première étape. Donc ça, c'est super intéressant aussi.
On va avoir du tissu du coton bio GOTS, du coup, qui vient d'Inde. Et on va avoir, par exemple, pour tout ce qui est veste et tablier de travail, du tissu qui est fabriqué justement en Mayenne directement. Donc on a plusieurs types de tissus. On essaye de faire le plus local possible, mais après, il y a quand même l'histoire d'esthétique aussi à respecter. Donc là, on a Marina qui est responsable de la coupe. Elle, son travail va être assez varié parce qu'elle va s'occuper à la fois de couper, par exemple, les vestes et tabliers que je vous montrais tout à l'heure. Donc elle va faire des matelas. Et elle a un ciseau qui relie directement, on voit, au plafond, en fait, par un câble. En fait, là, il y a des couches de matelas.
On peut aller jusqu'à 20 épaisseurs en général, à peu près. On met toujours un gant de fer et on vient juste allumer la machine. Et en fait, ça vient couper directement. Vous voyez, ça coupe en épaisseur, en fait.
Oui, c'est un poste assez important parce que du coup, tout part de la coupe, en fait. Donc si on a des problèmes de coupe, on va avoir des problèmes en production. On va avoir des problèmes au contrôle, final. La dernière étape, c'est le conditionnement, donc la mise en paquet et la palettisation. Alors là, on est un peu plus d'une vingtaine. Bah là, on est en train de rechercher d'ailleurs. On recherche 3 mécaniciennes en confection pour la fabrication des culottes menstruelles ou des lingettes démaquillantes. Et on recherche aussi un responsable logistique, achat et qualité.
Alors moi, du coup, j'ai fait un bac pro métier de la mode vêtements et ensuite j'ai fait un BTS métier de la mode vêtements. Donc après mon diplôme, j'ai cherché du travail et j'ai trouvé facilement ici. Ça se passe super bien, donc c'est parfait. Le fait est qu'on soit très polyvalent, qu'on change quand même, je trouve, assez régulièrement de commandes, en fait. Donc on n'est pas sur des projets qui vont durer 5-6 mois, donc on change assez souvent, sauf au niveau des lingettes, où on reste un peu plus souvent, mais souvent on retourne sur les masques, on retourne sur les tabliers, donc moi je trouve ça super intéressant de pouvoir changer. On est formé sur pas mal de machines, puis on a une super équipe avec une super ambiance, donc ça c'est agréable.
Et si vous aussi vous souhaitez la rejoindre, que vous êtes intéressé pour postuler, vous pouvez envoyer un mail à astrid@atelierdesmouettes.fr. Et c'est la même adresse d'ailleurs que vous pouvez utiliser pour tout simplement visiter l'atelier la semaine prochaine, puisqu'il reste des places pour 2 créneaux, lundi à 14h et jeudi à 10h. On va parler justement du festival J2K, festival autour de la culture hip-hop, mais pas seulement. Ça, ce sera après avoir écouté Angèle avec La Thune.
Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? T'étais je fais partie de ces gens-là. Rassurée quand les gens ils m'aiment, et si c'est très superficiel. Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fée. Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fée.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens.
C'était Angèle avec La Thune dans l'agité du local sur l'autre radio. Il souffle ses 10 premières bougies. Le festival J2K, de l'association du même nom pour jeunesse de caractère, a commencé, festival donc, qui a commencé mardi soir et qui se poursuit jusqu'à la fin du mois. Le festival J2K donc à Laval avec en fil rouge la culture hip-hop, mais pas que. Il y a aussi d'autres danses et des événements, notamment autour de l'éducation. Un point très important pour Baba Diawara, son coordinateur. Je vous propose de l'écouter maintenant.
Bonjour, je m'appelle Baba Diawara. Je suis responsable du pôle culturel style J2K. Le pôle culturel style J2K, c'est un pôle qui a été créé en 2011 avec l'émergence du festival qui est né la même année. Et donc, le pôle, il est basé sur une dynamique qui est autour des ateliers de danse hip-hop, que, par rapport à l'enseignement hip-hop que je donnais au niveau du conservatoire. Avant de donner ces cours au conservatoire en danse hip-hop, je les donnais dans les maisons de quartier. Donc le conservatoire, c'est venu que par la suite. Et ayant un parcours aussi d'éducateur, animateur, nous, il y a tout un pan autour de projets éducatifs qui est hyper important dans notre démarche de travail. Donc la culture, hip-hop en l'occurrence, c'est un point de départ et pas une finalité. On est hyper exigeant dans l'apprentissage et dans ce qu'on peut faire autour de l'aspect artistique et esthétique de la danse. Mais autour de ça, on essaie de faire découvrir à nos jeunes, à leur famille, à notre public, de façon plus large aussi à travers le festival, tout un tas d'autres choses autour des sujets de l'éducation. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc, on essaye de faire le lien entre l'aspect culturel et l'aspect éducatif. C'est un petit peu notre cheval de bataille et c'est ce qui nous anime.
Puisque là, effectivement, on va parler du festival J2K, mais il y a vos ateliers tout au long de l'année, qui c'est vraiment le cœur de vos activités. Vous le disiez, le festival, c'est un peu le point d'orgue de votre activité tout au long de l'année. Là, ce soir, il y a un spectacle qui, en tout cas, moi, m'a surpris par rapport à la faute de l'orthographe et au fait de, comment dire, des surprises et parfois illogiques, enfin choses illogiques en tout cas de la langue française. C'est vrai que de base, on ne voit pas forcément le lien peut-être avec les ateliers que vous proposez et pourtant ça a bien été intégré à cette programmation.
Ah ah ah, énième question sur ce spectacle. J'en ai eu pas mal de remarques par rapport à des échanges et des discussions que j'ai pu avec des journalistes ces derniers temps. Après, voilà, on va pas faire un débat, mais le problème, en tout cas, qu'on a eu, nous, à travers J2K, et ce qu'on a développé ces dernières années, en fait, moi, je refuse de rentrer dans des cases, en fait. On vit dans un monde, et particulièrement en France, c'est bien le cas, on aime bien mettre les gens dans des cases. Si je fais un événement autour du hip-hop, faut que je reste dans le hip-hop. Donc moi, j'expliquais au préalable que je suis éducateur avant tout, et c'est ce qui m'anime, en fait. Donc, on a réussi à faire des choses super autour de la danse, à travers des valeurs qu'on a réussi à véhiculer. Ces jeunes-là et ces familles qu'on a pu avoir à travers différents parcours, il y a des enfants qui sont scolarisés, qui nous parlent de ce qui marche, de ce qui marche pas, au niveau des familles aussi, à travers la vie de tous les jours, on nous parle de ce qui va, de ce qui va pas. Et bien entendu, ces choses-là, on essaye d'être, de s'inscrire en tant que complément de l'éducation que peuvent aussi parfois donner les parents et d'apporter d'une certaine façon aussi, nous, des réponses pour aider à travers ce qu'on sait faire de mieux, à savoir ce qu'on peut proposer en termes d'activités culturelles et éducatives. Donc, la faute de l'orthographe, pour revenir au sujet, pourquoi ? J'ai été frappé quand, quand j'ai vu ce spectacle-là, qu'un danseur hip-hop m'a conseillé d'aller voir. C'est que, à travers deux profs de français, un sujet sérieux tel qu'est l'orthographe, qui peut parfois crisper beaucoup de personnes, c'est la façon dont ces professeurs de français ont réussi, à travers le fait de créer un spectacle, un divertissement, de parler de ça de façon décomplexée, d'en faire un divertissement et qu'on puisse y apprendre des choses mais hyper intéressantes, mais vraiment hyper intéressantes. Et sans entrer dans les détails, en fait, moi, ça m'a juste fait kiffer d'aller voir ce spectacle-là. Et le au-delà du divertissement, c'est un petit peu le credo de J2K. Quand on parle de J2K, on dit J2K au-delà du divertissement. Donc ce spectacle-là, pour moi, il symbolise en fait notre démarche de travail. Et même si c'est pas du hip-hop, on est dans le volet, pour moi, où on a envie de proposer à notre public une ouverture pour qu'il puisse aussi apprendre autre chose. Et ces gens-là, peut-être qu'il y en a une partie qui ne viennent pas habituellement peut-être au festival, mais il y en a qui viennent aussi au festival et qui découvriront pour certains le fait qu'il y a des spectacles de danse hip-hop en fin de semaine. Et puis pour ceux qui étaient habitués aux spectacles de danse hip-hop, ils diront oui, ça c'est intéressant, il y a ma fille ou mon fils qui est en telle classe, etc. Je serais curieux de savoir à travers le divertissement ou ce qu'a l'habitude de faire Baba, son équipe, etc. Pourquoi ça a été programmé ? Et dans ces cas-là, ils vont venir. Et dans ces cas-là, pour nous, c'est bingo au niveau de la réflexion.
Donc oui, susciter la curiosité, attirer peut-être d'autres publics aussi, c'est l'objectif ?
Très sincèrement, le fait de pouvoir avoir la chance de travailler pour le service public fait que je me pose jamais cette question-là quand je programme. Je me dis pas est-ce que ça va être complet ou pas, parce que ça a été mais franchement, ça rentre pas mais du tout dans ma réflexion de base. Je me dis, est-ce que ça va être utile ? Si ça l'est, on y va. Tout simplement. Si on sent, à travers ce qu'on met en place sur le terrain, à travers des échanges, etc., que ça peut apporter à notre public, je conçois pas mon métier et ce que je fais sans le fait de pouvoir être utile aux gens. Donc voilà, on essaie de travailler dans cette direction-là.
Donc avec notamment cette conférence débat ce soir, mais aussi des spectacles, on l'a dit, et notamment une compagnie qui sera à l'honneur tout au long du week-end, la compagnie Art Move Concept. Pourquoi avoir choisi justement lui laisser autant peut-être carte blanche, ou je ne sais pas si c'est carte blanche ou si c'est vous qui avez sélectionné les spectacles, mais en tout cas autant de visibilité, autant de place.
C'est vrai qu'on ne choisit pas les compagnies au hasard, loin de là. La compagnie Art Move Concept, on n'est pas un festival à gros budget. Et en fait, quand on a commencé en 2011, moi, à travers mon réseau, il y a des compagnies qui sont venues à Laval jouer à des prix, à des coûts où ils ne s'y retrouvaient pas forcément complètement. Et ça, dans la culture hip-hop, en fait, le fait aussi de soutenir quelqu'un du milieu qui lance un nouveau projet, donc lui donner de la force, comme on dit dans le milieu et tout, c'est quelque chose qui est, heureusement, qui est là et qui est bien présent. Donc cette compagnie-là a fait partie, dès le départ, nous a donné de la force en venant et en proposant des spectacles magnifiques dans les budgets qu'on avait. Et l'idée pour moi, j'essaie d'être fidèle en tous les cas à ces compagnies, parce que voilà, comme on ne peut pas y répondre à certaines exigences financières, on essaie de s'inscrire sur la durée avec ces compagnies et de se dire, voilà, si on ne peut pas faire ceci ou cela d'un point de vue budgétaire, au moins dans la durée, moi j'ai envie de travailler avec vous sur davantage de projets. Et comme ils ont des projets très différents, voilà, moi je m'y retrouve complètement dans le fait de pouvoir proposer des choses différentes et le fait d'avoir des compagnies qui sont à l'écoute surtout de la caractéristique du projet qu'on a nous sur le terrain et qui s'adaptent. C'est des compagnies qui s'adaptent elles ne viennent pas avec des projets clés en main. Elles arrivent des fois aussi à écouter par rapport à ce qu'on a envie de faire et de s'adapter complètement. Et ça, c'est une force aussi de la culture hip-hop. C'est aussi d'être cette capacité à s'adapter à tout, quoi, en fait. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui programme, quand je prends la casquette de programmateur, c'est assez plaisant de pouvoir se dire que voilà, je travaille avec des intervenants qui peuvent, en fonction de ce qu'on travaille sur tel quartier, dire que voilà, ils peuvent adapter leurs propositions aussi.
Et donc là, du coup, très concrètement, quelles propositions ont été choisies pour ce week-end ?
Donc le spectacle à nos passes, qui est le gros spectacle de la compagnie à Move Concept, qui aura lieu dimanche, c'est un spectacle qui retrace un petit peu les parcours de vie des différents danseurs. Donc ce sont des choses qui sont assez liées à l'intime. Et moi, ce que j'apprécie tout particulièrement avec les chorégraphes Soria et Mehdi, c'est la poésie qui se dégage de leur spectacle. Et après, ce sont des parcours vraiment personnels. Il y a par exemple l'une des chorégraphes qui est cambodgienne. Ses parents et son père, en l'occurrence, refusaient qu'elle puisse faire de la danse son métier. Et il y a tout un tableau qui évoque cette espèce de troubles qu'elle a pu avoir à travers son parcours dans le relationnel avec son père par rapport à ça. Et ça donne un tableau qui est, enfin, pour moi en tous les cas, qui est l'un des moments forts du spectacle et qui est juste magnifique. Et le hip-hop, en fait, c'est ça. C'est à travers sa singularité, s'adresser au plus grand nombre. Et c'est ce qu'ils ont bien réussi à faire à travers ce spectacle-là. Et c'est ce que je voulais faire découvrir au Lavallois. Le samedi, il y a un spectacle Soé, qui sont deux jeunes femmes qui sont mamans, danseuses, qui ont éprouvé tout un tas de difficultés à travers aussi leur parcours de maman, de danseuse, etc. Pareil, la sensibilité dont elles ont fait preuve à travers cette pièce-là, je pense que c'est un message universel à l'intention de toutes les femmes. Et je pense que toutes les femmes sont très sensibles à ça, ainsi que les hommes, puisque j'ai été sensible à ça. Et voilà, le milieu hip-hop, c'est un milieu où on entend beaucoup plus d'hommes. Et mettre en avant aussi les femmes par rapport à cette belle pièce-là, c'était aussi important pour nous. Donc, le maître mot, en tous les cas, le mot d'ordre en tout cas sur ce week-end-là, c'est la poésie. Parce que voilà, c'est la compagnie experte à ce niveau-là pour transmettre ce type de message.
Donc effectivement, ça va être un peu le fil rouge de tout ce week-end avec la compagnie Art Move Concept, à retrouver sur plusieurs spectacles, on l'a dit. J'ai vu qu'il y avait aussi des ateliers qu'on pouvait faire en famille, ça pendant les vacances, je pense que ça peut être intéressant d'en parler.
Tout à fait. Il y a la compagnie Racine Carrée, qui est une compagnie habituée du festival aussi, qui vient depuis 3-4 ans maintenant. Ils ont commencé avec des spectacles enfants à Laval qui ont fait un tabac à l'avant-scène. C'était toujours vraiment blindé. Et cette compagnie-là, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, tout comme la compagnie Art Move Concept, c'est une compagnie, nous, qu'on nomme chez G2K, c'est la compagnie 4x4, qui s'adapte à tout, 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 tout. Et donc là, on travaille avec les centres de loisirs sur un sujet qui s'appelle le poids des mots. Et la compagnie va faire un travail sur des ateliers de danse en utilisant la parole. Les enfants parfois, et les adultes, je ne vais même pas dire que les enfants parce que c'est faux, on peut être assez violent et pas forcément avoir conscience du poids de certains mots. Et donc il y a un travail qui va être fait dans le rapport corps. Donc la musicalité, là, ça va être plutôt autour des mots. Donc il va être... qui va être mis en avant à travers donc cet atelier de danse avec la compagnie Racine Carrée. Ils vont faire aussi un spectacle qui s'appelle 981, qui est un spectacle original sur des trampolines, qui sera proposé en fin d'atelier. C'est un petit peu c'est un spectacle qui durera 10 minutes pour ponctuer chaque atelier parent-enfant. Et ça, c'est une surprise, je peux pas trop en parler. Mais voilà, cette compagnie-là, en tous les cas, elle est très habile pour faire le lien avec les publics. Et on apprécie particulièrement leur pédagogie et leur façon de s'adresser à tous les publics. Donc c'est bien de pouvoir emmener ça au cœur des quartiers et de proposer... aussi sur ces temps de vacances, ce type d'activité.
Peut-être aussi un mot sur la soirée synergique qui est proposée le 29 octobre, où là on est vraiment aussi sur deux spectacles de danse qui seront proposés sur une soirée. Quel est le, Vraiment ce qui guide un peu cette soirée synergie qu'on retrouve tous les ans aussi dans le
oui.
festival.
À la base, la soirée synergie, c'était pour rassembler toutes les danses. Après, toutes les danses, on ne peut pas bien entendu le faire chaque année. Mais en tous les cas, c'était de ne pas s'adresser qu'aux gens qui aiment le hip-hop. C'était en première partie de proposer à travers la dynamique locale. Il y a une école de danse à Bonchamp qui participe chaque année qui s'appelle Jazzline. Il y a aussi Corinne à Saint-Martin au niveau de ce qu'elle fait en jazz qui participait en première partie avec certains de ses élèves. Il y a moi mes élèves aussi. Donc l'idée c'était que des petits projets comme ça d'élèves de niveau avancé puissent monter sur scène en première partie d'une compagnie professionnelle et puis après ces élèves-là regagnent la salle pour voir le spectacle hip-hop, pour continuer à faire le lien avec la culture hip-hop. Mais c'est essayer de promouvoir encore une fois la culture hip-hop, mais en cette fois-ci faisant participer très clairement des jeunes qui font un autre style de danse, de façon à vraiment apprendre à se connaître différemment et découvrir des projets d'un autre univers. Donc les projets des jeunes sont en général assez courts, entre 5 à 10 minutes. Cette année, on pourra moins le faire parce qu'on est à la SCOMAM au lieu d'être à la salle polyvalente. Et donc ça change beaucoup, beaucoup la donne. On fera venir moins de groupes en première partie. Mais Synergie s'appelle Synergie par rapport à cette volonté-là de fédérer, on va dire.
Donc toujours cette idée de fédérer pour la soirée Synergie de la semaine prochaine de vendredi soir. En revanche, la battle prévue le lendemain, le samedi 30, est annulée à cause de la salle polyvalente qui n'est toujours pas disponible puisqu'elle est toujours utilisée pour le centre de vaccination. Mais du coup, le point positif dans l'histoire, c'est que vous aurez deux soirées Synergie le vendredi soir, mais aussi le samedi à 16h30, donc plus de possibilités pour y participer. Et justement, si vous voulez participer, que ce soit au spectacle ou aux ateliers, deux possibilités. Donc les ateliers, il faut vous inscrire directement auprès de la maison de quartier. Et pour les spectacles, la billetterie et le programme complet d'ailleurs, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout évoquer bien sûr, c'est à retrouver sur le site Style J2K Laval. On va passer, on va faire une petite pause en musique d'ailleurs. On va écouter Charles X avec The Day After.
This is for the day after. Revolution made it past all the war and pollution. I knew we could do it, baby. Oh, the sun is out shining and our children are all shining with it on happy day. Little brother, don't you shed a tear, do it in such
c'était Charles X, The Day After, dans l'AJT du local sur l'autre radio, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et c'est l'heure de passer à notre chronique Pensée Locale, notre chronique, notre cycle plutôt de reportages autour des circuits courts réalisés avec d'autres radios associatives des Pays de la Loire, une petite dizaine qui participent à ce projet pour montrer justement à quel point le Pensée Locale peut se faire de différentes manières. Et aujourd'hui, rendez-vous dans le Pays de Ré, en Loire-Atlantique, témoignage d'une paludière. Une paludière qui va nous raconter son rapport à son métier, sachant que son activité a longtemps été une activité majeure de la région, disparue dans les années 70 et réhabilitée au début du 21e siècle. Elle va justement revenir sur cette histoire et surtout sur son rapport actuel à son métier et à son patrimoine, à son terroir. On l'écoute.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Pensée locale en Pays de Ré, où les marais salants sont réhabilités depuis quelques années seulement. Existant pourtant au XIIe siècle, le troc ou la vente de sel a connu son apogée au XVIe, avec le commerce de la Hanse. La région était alors une des plus riches de France. Guerre, envasement, tempête et industrialisation ont eu raison de ce commerce, par conséquent, de l'exploitation de ces terres marécageuses. Nous sommes dans le marais de Liarn, où l'activité relancée dans les années 2000 par des passionnés fait à nouveau partie du paysage. Mélanie Dapremont, paludière depuis 2018 sur la saline appelée Tenue de Mareuil, nous reçoit.
Voilà, nous sommes dans le marais breton. On est à l'extrême nord du marais breton, qui s'étale sur 45 000 hectares. Les Moutiers-en-Ré étant vraiment le nord, à l'est on trouve Chaland et au sud Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des prairies où on peut trouver des vaches, il y a encore de l'élevage bovin dans le territoire. Certaines personnes font du mouton de pré salé aussi sur ces territoires. Et une flore bien spécifique au marais breton avec autant d'espèces d'habitats salés comme les salicornes, l'aubium, que de petites plantes qui se développent dans les mares d'eau douce comme la renoncule aquatique, des petites fleurs blanches qui peuvent couvrir les mares. C'est vraiment un territoire sauvage. Très peu d'intervention de l'homme sur ce territoire, d'autant plus qu'il est préservé. Alors il y a même d'autres projets, des secteurs qui sont aménagés pour améliorer la nidification des oiseaux et espérer que toutes ces espèces puissent venir nicher en paix chez nous et se reproduire le mieux possible. Moi j'ai choisi de m'installer ici d'autant plus parce que je suis originaire du secteur, donc j'avais envie de rester dans mon pays. Le cadre de travail est splendide. Et aujourd'hui, je vends un produit dont je suis très fière. J'ai beaucoup de respect pour mon produit. Je peux suivre mon produit jusqu'au consommateur et je sais qu'est-ce qu'il en est. Et je sais au fond de moi quelle est la qualité de ce produit. Il y a aussi sur cette saline un partenariat avec l'association P2MB qui promeut le patrimoine. Et c'est cette association qui, à l'époque, en 2001, a géré la remise en état de la saline. Donc aujourd'hui, je suis l'exploitante de la saline, le département est mon propriétaire et P2MB gère les visites de la saline.
Pensée locale, un enjeu de société.
On est peu nombreux en paludier, je disais on est trois sur Bornaf et les Moutiers. Je croise des fois, ça va être des éleveurs, les éleveurs qui sont à côté, on s'arrange entre nous, mais ces vaches à pâturer sur certaines parcelles ou les moutons. J'ai l'éclusier évidemment avec qui je suis pas mal en contact puisque je surveille les manœuvres qui sont faites sur les manœuvres d'eau dans les étiers. Les défenseurs de la biodiversité parce que la saline que j'ai remis en état sur la commune de Bourgneuf appartient, j'ai fait acheter cette parcelle par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Donc eux sont pas mal présents, font des inventaires, observent ce qui se passe sur la saline, sur les alentours, sur les parcelles qui sont là. L'hiver, mon travail est bien plus commercialisation, ensachage, toutes les livraisons régulières à faire dans les boutiques qui vont revendre mes produits, les boulangers qui consomment pas mal de sel, du gros sel. Le sel marin, comme on le fait, est nécessaire dans la charte AB pour les producteurs boulangers. Donc ils viennent plutôt vers des produits comme l'autre, du sel marin. Enfin, les gens commencent à faire attention un petit peu à ce qu'ils consomment. C'est sur la qualité réelle du produit que les gens vont aller de plus en plus s'orienter sur des produits comme le nôtre. Le gros sel et la fleur de sel, qui sont eux naturellement plus riches en oligo-éléments et produits de manière 100% naturelle, sans additifs. La vente directe sur la saline au Moutier en Ray, ça me permet aussi d'avoir le retour direct des clients et de savoir s'ils sont satisfaits. Enfin, en général, c'est des retours très positifs. Ce que j'ai pu apprendre déjà jusque-là, c'est que mon seul patron, finalement, c'est la nature. Si j'ai beau avoir décidé, des fois, des choses. Si la nature en a décidé autrement, c'en est autrement. C'est comme ça. Et avec les années, je comprends qu'en fait, c'est normal, c'est comme ça. C'est un métier qui est lié à la nature. Et il faut juste l'accepter. Il en est ainsi.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Jade FM.
Et merci à Valérie de Jade FM pour ce reportage que vous pouvez réécouter et que vous pourrez réécouter un petit peu plus tard à loisir sur notre site internet l'autreradio.fr. La prochaine chronique, bien sûr, ce sera jeudi vers 12h40. Exceptionnellement, pas de feuilleton aujourd'hui autour du spectacle La Conférence des Oiseaux, mais il revient demain pour un épisode complet. C'est donc la fin de notre émission L'AGT du local pour aujourd'hui. À suivre aujourd'hui à 18h, il y aura une émission spéciale en direct du cinéma Le Palace à Château-Gontier dans le cadre de Culture Commune organisée par le réseau des acteurs jeunesse toute la semaine. On avait reçu d'ailleurs dans l'agité du local François Hillan pour en parler mardi. Et donc là, ça va être un débat plus spécifiquement avant un ciné-débat qui a lieu donc à partir de 20h30 ce soir à Château-Gontier. À l'antenne, les émissions vont se poursuivre. À 19h, il y aura la première émission de Ta Chambre, émission aujourd'hui on va parler de la représentation de l'amour sur les écrans et de l'influence sur la vie intime d'une femme et de plusieurs femmes d'ailleurs. Et à 21h vous pourrez retrouver votre émission All Blues. Mais avant, à 13h, c'est au tour de Dissy Londe, autour de l'esclavage. Ce jeudi, ça va être le thème abordé durant cette émission. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la dernière émission de la semaine. À demain.